Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Les vacances d'avril sont terminées, mais les vacances d'été arrivent à grands pas sur l'Île-d'Yeu et plus généralement sur la côte vendéenne. Bonjour Anne Lemasson.
Bonjour.
Tu es la directrice de l'office de tourisme de l'Île-d'Yeu.
Oui.
Bonjour Marie Printemps Quentin.
Bonjour.
Tu es du service hébergement de l'office de tourisme de l'Île-d'Yeu.
C'est ça.
Les vacances de printemps du 2 au 30 avril, est-ce un bon indicateur en termes d'influence touristique pour la saison estivale, Anne?
On ne peut pas réellement parler d'indicateur parce qu'on sent qu'il y a vraiment un démarrage très très lent.
Mmh. Hein. C'est lent cette année?
Très lent, ouais. On a vraiment un ressenti. Alors nous, on l'avait ressenti déjà sur nos appels téléphoniques, sur notre période janvier, février, mars, puisque sur nos appels, on était à moins 9% d'appels téléphoniques par rapport à l'an dernier.
Par rapport à 2015?
Par rapport à 2015. Également sur nos connexions internet, on est à moins 7%. Et sur notre billetterie bateau, puisque tu sais qu'on fait...
La billetterie bateau, voilà, pour compagnie Eurocontinent et Vendéenne.
Pour les deux compagnies, ouais. On est en baisse également, on est à moins 13%. Donc moi j'ai voulu voir un petit peu quel était le ressenti auprès de nos partenaires, principalement auprès de nos deux compagnies de bateau. Mmh. Et ils ont été unanimes en me disant qu'effectivement c'était très calme. Mais que ce calme n'était pas uniquement sur l'Île-d'Yeu, mais était aussi sur les stations littorales du Nord-Ouest Vendée.
Et comment ça s'explique un petit peu?
Alors, plusieurs explications, hein, je pense. Bon, on a des vacances d'avril qui, cette année, sont un peu décalées par rapport à celles de l'année dernière. Mmh. On a le phénomène aussi que les stations de ski ont fait des promotions sur cette période de printemps. Il y a de la neige. Et puis, il y a l'étranger qui vient nous concurrencer. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur une concurrence accrue par rapport à d'autres destinations. Et là, on l'a vraiment ressenti à nos niveaux. Alors, en termes de fréquentation, je dirais... à l'accueil, on ne l'a pas trop ressenti. Mmh. Sur le mois d'avril, quand même, on est à moins 15% par rapport à l'an dernier. Mais sur ces vacances d'avril, j'ai regardé un petit peu, on est à peu près à la même fréquentation, en tout cas au même nombre de personnes physiques à être venues nous rencontrer. Donc, mais quand même, ça nous fait nous poser des questions par rapport à ce qui va se passer.
L'été prochain.
L'été
2016.
Et, voilà, on a quand même... pas de très bon ressenti sur certains mois, par exemple. Hein, on voit bien, puisque mes printemps en parlera tout à l'heure au niveau de l'hébergement. Mmh. On a des tendances qui sont à la baisse. Alors, les compagnies de bateaux m'ont tous dit quand même que les ponts allaient très très bien fonctionner, qu'ils avaient beaucoup de réservations et qu'ils avaient des groupes pour le mois de juin. Mmh. Voilà ce qu'ils m'ont répondu.
Mais les groupes pour l'office de tourisme et plus généralement l'Île-d'Yeu, les groupes, ils viennent surtout une journée, non?
Oui, mais ça a quand même une incidence économique, puisque ces groupes vont aller au restaurant, consommer peut-être de la visite guidée. Ça a quand même une incidence. Et souvent, le groupe, et on l'a bien vu, nous, des gens viennent ensemble et ensuite reviennent en couple sur l'Île-d'Yeu parce qu'ils ont trouvé ça sympa et qu'à la journée, ils n'ont pas eu suffisamment
de temps pour faire du planning.
Voilà.
C'est tout à fait vrai. C'est vraiment déclencheur. C'est vraiment déclencheur de nouvelles arrivées, en fait. Vraiment, hein. Faut pas regretter la journée parce que ça déclenche du 3 jours, voire des séjours d'une semaine.
L'influence donc pour l'été 2016, plutôt moyenne, non, pour l'instant?
Nos derniers chiffres...
Pour l'instant, Anne, tu marches sur des œufs?
Oui, 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 complètement, parce qu'aujourd'hui, en fait, le client est...
Vous êtes un petit peu dans le flou.
Il est même spontané. Il est spontané, il ne prévoit plus... Et donc, en fait, tu ne peux pas non plus prévoir, toi, derrière, ce que tu vas pouvoir faire en termes de gestion, hein, de ressources humaines. C'est aussi simple que ça. Parfois, on se dit, bah, tiens, je vais mettre une équipe au complet pour une période. Et puis, finalement, t'as personne, quoi. Donc, c'est vrai que c'est
compliqué. C'est un peu stressant,
tout de même. Non.
Non, pas stressant.
Non, non, parce qu'on sait qu'on aura du monde, quand même. Et que notre facteur temps ou météo est déterminant, quand même, pour notre destination.
Primordial, même.
Est primordial, en tout cas.
Comment bien préparer sa venue sur l'Île-d'Yeu, que ce soit en basse, moyenne ou haute saison? Est-ce qu'il y a des différences notables?
Alors, vis-à-vis de cette question, j'aurais tendance à dire qu'il faut toujours appeler l'office de tourisme avant de venir. Hein, c'est un réflexe obligatoire. Et donc, selon la période, il faut réserver son bateau ici, sur l'Île-d'Yeu. Il n'y a pas le choix. On voit bien, hein, les week-ends de l'Ascension, si tu n'as pas réservé ton bateau, voilà. Et s'assurer que l'hébergement aussi est en face. Mmh. Hein, donc, égale réservation de bateau, réservation d'hébergement, réservation aussi de parking aujourd'hui. Donc, en fait, il y a tout un mécanisme pour venir sur l'Île-d'Yeu.
C'est un petit peu du sport tout de même.
Et, oui, hein, qui n'est pas toujours simple.
La destination de l'Île-d'Yeu, pour venir, c'est du sport.
Oui, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas du tout cuit, on va dire.
Et les gens, quand ils arrivent sur les lieux, qui viennent sur à l'office de tourisme, ils disent quoi par rapport au transport du bateau, de l'hélicoptère et des parkings à Fromentine ? Est-ce que vous avez des ressentis ou des questions par rapport
Alors
à cela ?
Alors nous, on a des fiches d'appréciation hein, que remplissent les clients, qu'on analyse hein, en fin de saison et auxquelles on répond. Mm-hmm. Alors pour l'instant, on répond très basiquement. Dans l'avenir, et vous le verrez, on va en parler tout à l'heure dans les nouvelles actions, il faudra qu'on soit plus pointu là-dessus. Aujourd'hui, on prend les remarques, on fait des pourcentages, on dit tiens, on a eu des remarques de telle sorte.
Quelles sont les remarques qui reviennent régulièrement ?
Régulièrement, c'est plutôt les nuisances liées aux voitures. Hein, sur l'île, trop de voitures. Et ça, c'est vrai qu'en période d'été, c'est ce qui ressort principalement.
15 juillet, 15 août, trop de voitures.
Ah oui,
c'est ça.
Ouais, mmh. Ouais. Problème de circulation, nuisances sonores aussi également. Ça, c'est vraiment les remarques récurrentes. Il y avait l'an dernier des remarques sur la signalétique. Mmh. Cette année, on en a beaucoup moins. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros effort de fait sur la commune. Donc, on voit bien que si on apporte des solutions, eh ben ensuite, ça crée effectivement du positif pour le client qui vient sur l'île-Dieu.
Mais pas de retour par rapport au bateau ou à l'hélicoptère ? En positif ou en négatif ? Ou comment venir sur l'île-Dieu ?
Généralement, on a de très bons retours sur nos compagnies de bateaux. Il n'y a pas de remarques à proprement parler. Eux aussi ont des enquêtes de satisfaction. Mm-hmm. Qu'ils mettent en place tous les ans. Ils ont les retours directement et on a très rarement, puisque nous aussi on fait la billetterie bateau, très très rarement de remarques sur les compagnies.
Et les gens, ils ne se disent pas, c'est une galère de venir sur les lieux, jamais ? Non ?
Non.
Ils se préparent
non.
bien, ils sont toujours bien préparés ?
Oui, et puis parce que l'office de tourisme est là, bien en amont, ils nous appellent et nous, on a, en moyenne, on va passer, on va dire, bien 15 minutes par personne.
À leur expliquer comment venir sur les lieux.
Ouais.
Ah oui, c'est rigolo.
Ah oui. Oui, parce qu'il faut leur expliquer tout le processus. Et parfois, certains ne savent même pas qu'ils vont arriver sur une île, persuadés qu'il va y avoir un pont ou qu'il n'y a pas de bateau pour y venir. Pour eux, c'est un fantasme. Et ils n'ont pas imaginé qu'il y avait tous ces moyens de transport.
La question du pont est déjà, vous a déjà été posée ?
Elle nous est posée, mais on répond très rapidement en disant qu'on veut rester une île et qu'on n'a pas de pont et qu'on y tient. On est, voilà, on est vraiment, pour ça, hein, on est assez unanime, nous. Voilà.
La tendance 2016, c'est plutôt du court séjour, 2 ou 3 jours, ou du long, 1 ou 2 semaines. Alors, ou pour l'instant, il n'y a pas encore de retour.
Alors, quand même, il faut dire que depuis quelques années, déjà, on est sur cette tendance-là, hein, sur du...
Court séjour.
Ouais, sur du court séjour, 2-3 jours.
Voire 4 jours. Non, même pas.
On va sur du 3 jours plutôt. On est sur du court week-end quand même. Et on a ressenti un plus quand on a mis en place les randonnées. Mm-hmm. Et on a senti que la demande à la journée basculait sur les séjours sur 3 jours. Et ça a été flagrant ça quand on a mis en place la randonnée. Et pour avoir un ordre d'exemple, en 2015, la clientèle qui fréquentait l'office de tourisme était à 46% de clientèle la journée. Et à 41% sur du week-end et court séjour. Et 11% à la semaine.
Donc, c'est pas énorme tout de même à la semaine.
Ah non, sur la semaine, non.
11%.
Non, 11% c'est peu. Mais après, il faut dire aussi que nos professionnels sont équipés, entre guillemets, ont toute la documentation pour bien orienter leur clientèle. Depuis 2 ou 3 ans, on fait en sorte de les inviter à des visites du patrimoine aussi pour qu'ils soient aussi ambassadeurs du territoire. Il y a les accueils gourmands où ils peuvent aussi venir. Voilà, ils peuvent venir chercher la documentation, les cartes touristiques et les mettre à disposition dans les gîtes. Donc, la case office de tourisme n'est pas systématique non plus dans un séjour à la semaine. Sauf s'il y a une réservation de billetterie ou une réservation de visite du patrimoine.
Les hébergements, il est hors hôtel, ont-ils pris en compte ce type de séjour court, week-end, 2 ou 3 jours ?
Alors certains oui, d'autres non. En fait, il faut savoir que, alors pour les hôtels et bien sûr les chambres d'hôtes, ça ne pose pas de problème. C'est généralement leur clientèle, mm-hmm. de trois nuits, 4 nuits, voire plus s'ils le peuvent bien sûr, mais ben, c'est quand même la majorité de leur clientèle. À l'inverse, il faut savoir que les loueurs en meublé, pour la plupart, sont des non-professionnels. Donc ce qui veut dire que ces courts séjours, c'est compliqué pour eux. Pour ceux qui travaillent notamment, eh bien des courts séjours, ça implique accueil beaucoup plus régulier. régulier, ménage complet de la maison, le nettoyage des draps, etc. Donc pour ceux qui travaillent, c'est compliqué. Et on pense également aux résidents secondaires qui, eux, carrément vont employer des entreprises illaises pour l'entretien et la remise des clés et tout. Et là, du coup, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Puisque le coût que représentent ces entreprises, il faut quand même l'impacter sur le coût de la location à la nuitée. Et du coup, quel est l'intérêt ?
Mais ces locations privées, ils vont se mettre à la page ? Ils vont bien être obligés, non ? Marie Printemps ?
Ben, c'est vraiment une question de rapport qualité-prix, quoi. En fait, si véritablement... Je dis comme ça complètement au hasard, parce que j'en ai une au sein de la centrale de réservation. C'est un résident secondaire qui a une très belle maison pour du 10 personnes, mais qui effectivement donc, a une entreprise illaise pour s'en occuper. Si le week-end, entre guillemets, lui rapporte pas, par exemple, 800 euros, ça ne l'intéresse pas. C'est véritablement un...
Il ne préfère pas louer.
Voilà, il préfère ne pas louer. Alors, quelque part, on ne va pas le regretter. Si nos hôtels peuvent récupérer cette clientèle, qui sont quand même les hôtels des professionnels qui vivent de ce travail, eh bien, c'est tant mieux. Si ça se complète par un nombre de loueurs en meublé qui peuvent aussi le faire, bah c'est très bien aussi. Donc, il ne faut pas forcément espérer que tous les loueurs en meublé le fassent et du coup, ce serait au détriment de l'accueil hôtel.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces courts séjours aussi à l'office de tourisme, par rapport au meublé et à la centrale de réservation ? Est-ce qu'ils vous disent c'est une galère les deux ou trois jours ou ils sont plutôt favorables à ce type de séjour ?
Les propriétaires, tu
veux
dire.
Les propriétaires, oui.
Alors on a vraiment les deux cas. Il y a vraiment certains qui vont dire oh ben moi ça me dérange pas, moi mon intérêt c'est de louer quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive.
Et d'autres vont nous dire non pour moi c'est trop galère, j'ai pas suffisamment de disponibilité, c'est trop complexe, moi j'ai pas envie. Il y a aussi quelques
ils préfèrent pas louer.
Ils préfèrent pas louer.
Oui
vraiment. Hein, c'est tout à fait personnel. Tout dépend ce que tu attends derrière ta location de meublé. Est-ce que tu veux vraiment retirer des dividendes ou au contraire non, j'estime que ma maison je l'ouvre à 350 euros, par exemple, à moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est le jeu du client et le jeu du propriétaire. Les deux existent.
Le taux de remplissage des hôtels, du camping et des meublés sont bons actuellement ?
Alors, pour juger efficacement d'un taux de remplissage, il faudrait que véritablement on ait ces taux de remplissage de chacun d'entre eux à la même époque. Ça, c'est quand même relativement compliqué. Ce qu'on peut dire vraiment aujourd'hui, c'est qu'il y a des inégalités dans les taux de remplissage. Inégalités qui s'entendent aussi bien dans les hôtels, dans les chambres d'hôtes, que chez les loueurs en meublé. On a vraiment des propriétaires qui vont véritablement louer. On a un planning assez exceptionnel pour certains. Notamment dans la centrale, j'en ai un qui fait de avril aujourd'hui jusqu'au 18 septembre. C'est pour
montrer. C'est déjà complet.
C'est déjà complet. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui n'ont véritablement très peu de semaines. Donc,
comment ça s'explique ? C'est que les services ne sont pas les mêmes ?
Alors voilà, tout à fait. Le client, en fait, aujourd'hui, il est vraiment en recherche. Et lui, en fait, c'est la tendance qui est là depuis maintenant plusieurs années, c'est vraiment le rapport qualité-prix qui fait la différence. Le client, aujourd'hui, grâce à Internet, il a les photos, il a le tarif. Et on le voit, les prestations, puisque tout, normalement, se doit d'être détaillé. Quel que soit l'hébergement choisi, je suis bien claire là-dessus, que ce soit l'hôtel, la chambre d'hôte ou les meublés, le client prendra toujours le temps de bien regarder si le rapport qualité-prix pour lui est à sa juste valeur. S'il ne l'est pas, c'est terminé.
Par exemple, s'il y a une piscine, s'il y a du Wi-Fi, j'en passe des meilleurs.
Aujourd'hui, par exemple, le haut de gamme est très recherché. Le très haut de gamme.
Le très haut de gamme
ouais,
sur les lieux.
Ouais. Alors, on a un hébergement qui est labellisé 4 épigites de France, par exemple, qui a un taux de remplissage.
4 épigites de France.
Tout à fait.
C'est le label, c'est bien ça ?
Oui, voilà. Hein, c'est une qualité. En fait, plus on monte un peu comme les étoiles au niveau des hôtels, plus on monte en étoile ou plus on monte en épi, on satisfait une grille de classement assez rigide. Et du coup, quand on obtient ce label-là, c'est qu'on a c'est une vraie référence.
Les gens, on l'a bien compris, recherchent plutôt, quand ils viennent sur les lieux, le haut de gamme.
Alors, on ne peut pas dire qu'ils ne recherchent que le haut de gamme. Ce qu'ils recherchent surtout, c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire que si véritablement tu veux un moyen de gamme, parce que tu as un budget, voilà, chacun a envie de mettre le tarif qu'il souhaite.
Qu'est-ce que vous appelez moyenne gamme sur les lieux et à quel tarif ?
Ah, alors là, ce serait difficile de juger parce que du coup, j'allais presque dire que ça devient personnel. Moi, ce que j'entends dans ce que je dis là...
Chaque loueur est libre.
Chaque loueur est libre, bien évidemment, et chaque client est en attente. Il a un budget vacances qui lui est propre. Et lui, en fait, si tu veux, je dis n'importe quoi, par exemple, il a envie de trouver un produit où il va payer que 60 ou 65 euros la chambre. Il va donc consulter ou nous appeler ou consulter sur notre site la liste des hôtels ou des chambres d'hôtes qui peuvent proposer ce tarif. Et deux cas de figure, où il estimera que le tarif avec tel produit, ça lui correspond. Il le juge, intéressant, ou au contraire, il se trouvera lésé en disant waouh, ça coûte 75 euros, c'est bien au-dessus de mon budget et à ce tarif-là.
Je vais redescendre en gamme.
Voilà, je redescends en gamme.
Je voudrais rebondir effectivement sur la partie tarif hein, que j'ai pas évoqué tout à l'heure. On parlait de critères météo déterminants sur la destination, mais un phénomène qui n'est pas récent, hein, et sur lequel j'alerte depuis quelques années, c'est le tarif, tout compris dans un séjour quand on vient sur l'Île-Dieu. Mmh. Et là, récemment, il y a eu une étude de fait hein, par un gros moteur de recherche hein, sur Internet qui a placé l'Île-Dieu comme la destination la plus chère en France pour les ponts du mois de mai. Après le Cap Ferret, donc en deuxième position. Sachant qu'en termes d'attrait pour le touriste lambda, l'Île-Dieu est quand même bien placée, hein, puisque arrive après l'île de Ré. L'île de Ré arrive premier, mais avec des tarifs moindres. Et l'étude a été faite sur des locations de vacances, sur un minimum de 4 personnes, sur 3000 locations de vacances. Donc, je pense qu'on peut tenir compte de cette enquête et je pense qu'il faut l'entendre aussi à un moment donné. C'est qu'aujourd'hui, notre destination, quand on intègre tout, c'est-à-dire parking,
bateau, location de vélo,
eh ben on arrive à des tarifs assez conséquents. On avait fait une étude il y a 3-4 ans avec Printemps justement pour regarder un petit peu comment on se situait par rapport aux autres îles bretonnes. Et là, on avait déjà vu qu'on était au-dessus, quoi. Donc à un moment donné, les gens regardent le prix aussi. Prix, et comme
on peut dire
Printemps,
que c'est le nerf de la guerre maintenant, le prix.
Le prix, mais aussi ce qui va avec. Mmh. Ce que disait Printemps, la qualité. Plus tu as de services et plus le tarif va avec, tu es sûr de louer.
Ce qui est aussi logique.
Voilà. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience tous. Nous, à l'Office, on est convaincus qu'il va falloir travailler sur une politique tarifaire, etc. Et voilà, il faut que...
Politique tarifaire et plus de services.
Et plus de services, effectivement.
Les services, d'ailleurs, demandés par les vacanciers, c'est quel type de service ? Plutôt une connexion Internet, plutôt une piscine, plutôt un spa, plutôt...
Alors, ça va dépendre de la clientèle. Aujourd'hui, c'est vrai que le Wi-Fi, par exemple, est demandé, j'allais dire, quel que soit l'hébergement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
C'est quasiment obligatoire.
Ah oui. Les meublés, aujourd'hui, s'ils veulent louer à des familles avec enfants, les enfants vivent avec le portable ou la tablette dans les mains. Et aujourd'hui, bon nombre de parents, ça fait partie des critères indispensables. Donc, c'est vrai que c'est une évolution véritable. Bon, alors évidemment, le lave-linge, ça, c'est le minimum. Hein, mm-hmm. Mais le Wi-Fi, c'est devenu une nouveauté depuis 2 ans dans les meublés. Chose qu'il n'y a pas malheureusement toujours, hein, loin s'en faut. Hein.
Les vacanciers aussi attendent les dernières minutes pour louer sur l'Île-Dieu. Est-ce que c'est une vraie tendance, ça aussi ?
Alors, on a deux types de clients. On a ceux qui vont être très en avance. Ce sont ceux qui vont vraiment prendre le temps de rechercher très méticuleusement sur l'Internet leurs produits. Leur objectif, c'est
prix et service.
Voilà, trouver la perle rare et en premier. Donc, on a par exemple des propriétaires chez nous qui sont capables d'avoir réservé déjà le week-end, les vacances de Toussaint, par exemple. Mmh. Ça nous arrive, hein. Et on est très tôt. Voilà. Et puis après, on a les deuxièmes sortes de clients, ceux qui préfèrent réserver en dernière minute. Pourquoi ? Par rapport à la météo, parce qu'ils ne veulent pas s'engager sur une île si vraiment il ne fait pas beau. Ou deuxième chose, c'est qu'ils espèrent avoir à ce moment-là des tarifs préférentiels en disant « vous n'avez pas loué, donc faites un effort ». Voilà. Donc, c'est deux types de clients très différents les uns des autres.
Ils espèrent. Est-ce que ça fonctionne, la baisse de tarifs ? Pour un loueur qui n'arrive pas à louer, est-ce que baisser le tarif, c'est une bonne idée ?
Alors, on a là aussi, de la part des loueurs, deux réponses différentes. Alors là, et toujours, bien évidemment, je parle de la centrale, puisque c'est moi qui rentre dans la négociation avec les propriétaires. Mm-hmm. Certains propriétaires vont me dire, oui, tant qu'à faire de ne pas louer, je préfère louer et du coup descendre. D'autres diront, non, je ne veux pas sous-estimer la valeur de ma maison et je ne souhaite pas donc l'abaisser. Donc, c'est toujours, dans tous les cas, on a toujours deux jeux, le jeu et la demande du client. Mais à l'inverse, on a aussi un propriétaire qui est en droit de répondre ou non favorablement à cette demande.
À l'Office de tourisme de l'Île-Dieu, proposez-vous de nouveaux services pour 2016, Anne ?
Oui, on essaie toujours d'être dans la création et d'avancer. Oui, cette année, en fait, on a signé une convention avec une agence réceptive du continent qui fonctionne depuis 25 ans hein, sur l'île et qui fonctionnait déjà avec l'association Office de tourisme. Et on a mis en place avec eux une convention pour vendre des séjours tout compris. Parce qu'effectivement, à l'Office, on se rendait compte qu'on passait beaucoup de temps au téléphone à expliquer de prendre le parking, de prendre le bateau, de prendre un hébergement. Donc, on s'est dit, on va gagner du temps en proposant des séjours tout compris. En signant cette convention, on a proposé à cette agence réceptive de ne prendre en compte que nos partenaires inscrits à l'office de tourisme dans cette convention. Donc nous ne travaillons dans le cadre de ces séjours qu'avec des gens qui sont partenaires à l'office. Mmh. Ensuite, on lui a proposé également de nous laisser les coûts des franches, puisque quand même on est dans, oui, parce qu'on est dans un système concurrentiel et on est quand même une structure publique, semi-publique privée aujourd'hui. Mais on lui a demandé l'autorisation, entre guillemets, de créer de nouveaux produits en parallèle. Mmh. Donc là, on est en phase, on commence à retravailler des produits touristiques qui seront dédiés, qui sont un peu différents des leurs et qui viendront compléter leur offre. Donc on est rentré dans la commercialisation aujourd'hui à l'office.
L'offre, tout compris, est déjà commercialisée par l'Office de tourisme ?
Depuis début mars.
Depuis début mars, ça fonctionne bien ?
Oui, ça fonctionne relativement bien, puisqu'on doit être à printemps. On a combien de séjours de vendus là, depuis début mars, donc c'est récent.
C'est très récent. Moi, je pense qu'on est dans la 25-30, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même pas mal.
Et le tout compris, la formule tout compris fonctionne en basse, moyenne et haute saison ?
Oui, fonctionne toute l'année. Mm-hmm. Hein, donc, nous, on a voulu...
Concrètement, comment que ça se passe ? Une personne téléphone à l'office de tourisme.
Oui.
Elle dit, je veux un séjour tout compris. Qu'est-ce que vous me proposez ?
Je vais laisser la parole à Printemps, puisque c'est elle qui sont...
Marie Printemps, allez-y.
Tout à fait. Alors en fait, on a le support quand même Internet, où nos clients peuvent d'ores et déjà voir l'ensemble de ces produits, où effectivement, on a ce type de clients qui vont nous dire, voilà, je veux offrir un cadeau, par exemple, sur l'île-Dieu, qu'est-ce que vous nous proposez ? Donc là, on a différents produits, on a des produits à la journée, ou bien après, on a un produit à la nuit, 2 jours, une nuit, ou 3 jours, 2 nuits. Donc, c'est très varié, avec hébergement, bateau, petit déjeuner, ou un plus, hébergement, bateau, petit déjeuner, vélo et dîner. Donc, voyez-vous, on a vraiment un vrai choix. Donc, on prend le temps d'expliquer aux gens, et proportionnellement aux tarifs qui diffèrent selon le classement de l'hôtel, par exemple.
Forcément, oui.
Évidemment, ça a une incidence. Donc, voilà, on prend le temps de discuter. Mais l'avantage du client, c'est d'avoir un tout compris, moyennant un coût, il s'occupe de rien.
Et par contre, les prix restent identiques, que ce soit en basse, moyenne ou haute saison ? Du tout compris ?
Oui, effectivement. Je n'avais pas fait le détail de cette façon, mais c'est vrai parce que j'ai proposé, moi, depuis mai jusqu'au... Non, d'avril, on a commencé à vendre les premiers et j'ai dû aller jusqu'au mois d'août et je n'ai pas vu de différence tarifaire à ce niveau-là. C'est vraiment impacté sur le coût. Bah, remarque, si tu regardes le billet de bateau, il est le même tout au long de l'année. Mm-hmm. Hein ? Après, sur l'hôtel, je n'ai pas fait le détail parce qu'en fait, c'est comme ce n'est pas nous qui travaillons les produits dans le détail. Hein. Nous, on revend un produit qui nous a été...
Vous êtes juste revendeur.
Revendeur, hein. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas détaillé vraiment ce produit, ce que l'on sait qu'effectivement, moi, je n'ai pas vu de différence tarifaire.
Pour découvrir l'île-Dieu, c'est un bon compromis, ce séjour tout compris.
Ah oui, et puis c'est utilisé pour faire des petits cadeaux. On le voit bien, le développement des smart box, c'est le même système.
C'est
en
un
fait.
Peu près le même principe.
Voilà, un coup de fil et ça y est, j'ai mon week-end et je peux offrir, quoi. Donc, c'est vrai que c'était intéressant. Bon, nous, ça a été un peu complexe à mettre en œuvre parce qu'au départ, effectivement, on avait idée de nous-mêmes créer. Mais pour une question de responsabilité, puisque la responsabilité, c'était la direction qui la prenait sur une défaillance à l'intérieur d'un produit, je ne sais pas, un restaurateur qui décide de fermer pour une raison ou pour une autre, c'était la direction de l'office qui prenait. Donc nous, on s'est dit, nous, on va s'assurer derrière quelqu'un qui est professionnel depuis des années et qui fait du produit touristique. Voilà. Je voulais effectivement justifier un petit peu pourquoi nous avions fait comme ça, sachant que ça ne nous empêche pas de créer des produits en parallèle.
Non, je voulais juste dire... pour donner un exemple, c'est l'idée du cadeau. Mais je vois par exemple, j'ai une dame l'autre jour d'un certain âge qui a voulu offrir un séjour à l'île Dieu à ses enfants, mais toute sa famille. Donc c'était super, on a fait une réservation pour 10 personnes. L'intérêt de cette dame, qui n'avait pas du tout envie de passer du temps au téléphone, c'est une dame d'un certain âge qui a dit « Qu'est-ce que vous me proposez ? J'ai envie de passer une journée avec mes enfants et mes petits-enfants. » Donc l'idée du cadeau, elle est...
La formule tout compris.
Tout compris est vraiment super dans ces cas-là.
Ce qui s'est développé également à l'Office du tourisme, c'est le service billetterie, puisque quand on est passé en établissement public, c'est vrai que ça a fait un peu peur à beaucoup d'associations hein, sur le territoire, il faut dire. Et aujourd'hui, on a rattrapé la situation, puisqu'aujourd'hui, on gère pas loin de 10 billetteries sur l'été. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Plus des billetteries nouvelles, parce qu'il y a des gens qui se sont installés et j'en suis très, très contente en termes de guides indépendants. Donc, toutes leurs billetteries passent chez nous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un nouveau service.
Mais ce service est payant, que ce soit pour les associations ou...
Voilà. Mais finalement, ils s'en sortent et ils sont contents de puisqu'on a une permanence chez nous, on a une plateforme téléphonique. Finalement, ils s'en sortent bien. On fait maintenant de la réserve en ligne. On peut faire du paiement en ligne. Ils y voient l'intérêt parce qu'eux n'ont pas tous ces services-là et ils n'ont pas la plateforme téléphonique déjà de base.
De nouvelles actions sont prévues pour faire découvrir la destination Lille-Dieu type salon pour 2016 ou 2017 ?
Alors, en termes de salon, oui, nous avons des choses de prévues, mais j'ai oublié un petit service et une action qui va avoir lieu courant de l'année, c'est la démarche qualité au sein de l'Office de tourisme.
Démarche qualité ?
Démarche qualité, oui. Grand mot.
Explique-nous, Anne.
Il y a une démarche depuis, on va dire, 2 ans. Il y a une étude qui a été faite pour que la commune passe en station classée. Donc, pour passer en station classée, c'est pas facile, on va dire. Il y a des étapes à franchir. Et il y a une étape principale qui est de passer l'Office de tourisme en catégorie 1 et que l'Office qui est en catégorie 1 démarre une démarche qualité qui s'appelle Qualité France.
Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en quelle catégorie?
On est en catégorie 3. Mm-hmm. Donc,
sacrée marche tout de même entre 3 et 1.
Oui, justement, c'est cette sacrée marche qu'on va devoir franchir. Et ça a été validé là au dernier comité de direction de démarrer cette démarche qualité à partir d'avril.
Quelles sont vos obligations pour passer d'une catégorie 3 à 1?
Il y en a de nombreuses. Printemps, vous voulez...
Non, mais les plus grandes, les plus...
Les plus importantes, c'est un personnel trilingue à l'accueil. Ouais. Je dirais que ça, c'est le plus important. Notre site internet en trois langues, en catégorie 1. Une charte graphique, c'est d'avoir à peu près toute la même façon de fonctionner sur nos supports de communication. Mmh. On a l'accès Wi-Fi à donner aussi à la clientèle. Entre autres, un plan de communication donc, et des process en interne à avoir. Ça, c'est un grand mot. Hein.
Des process en interne.
Oui, c'est-à-dire que quand on répond au téléphone, on n'attend pas. C'est un exemple parmi tant d'autres.
On attend pas 5 minutes. On attend une minute max, en gros.
Oui, c'est même en nombre de sonneries.
De nombre de sonneries.
Mmh. Vous voyez ? Et donc nous, on rentre dans la démarche, on est content à la fois, pour l'instant on l'a pas encore partagé, mais parce qu'on démarre. Mais l'idée c'est que ça va nous faire poser aussi des questions, voir comment on évolue et comment on peut évoluer aussi en interne par des façons de faire. Parce qu'on fonctionne peut-être depuis des années sans se poser de questions en se disant « Oh c'est bien comme ça, mais c'est peut-être pas si bien que ça voilà. ».
Et à l'Office de tourisme, vous parlez quelle langue ?
Alors, on a plusieurs langues, en fait, mais pas forcément au service accueil. Et ce qu'on a à déterminer et à voir avec les instances qui nous qualifient, c'est de savoir, est-ce que les langues doivent être forcément tout le temps à l'accueil ou est-ce que, de temps en temps, quelqu'un peut descendre pour parler cette langue et accueillir la personne ? Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'anglais, on a l'espagnol, on a l'allemand, on a le néerlandais et la langue des signes. Et puis on a le patois-ilais aussi, voilà quoi. Et puis le breton, tiens, aussi. Allez,
Anne,
voilà.
Des actions à venir pour promouvoir la destination Lille-Dieu pour 2016 ?
Oui, c'est vrai que du coup j'étais partie sur la démarche qualité, mais nous avons des salons en vue. On a déjà dans un premier temps la journée de la mobilité, le 5 juin à Lille-Dieu, en collaboration avec le service de la mairie, lieu 2030, où on va essayer de mettre l'accent sur tout ce qui est mobilité douce. Ensuite, on va à Brest, 2016. Alors ça, c'est dans le cadre de notre partenariat avec l'AIP, l'Association des îles du Ponant. On y sera du 14 juillet au 19 juillet, ce qui n'est pas simple pour nous parce que c'est la pleine saison. Mais on a dit qu'on y allait parce qu'on nous met à disposition un stand de 75 mètres carrés. Et le dimanche, ce sera une journée consacrée à l'île-Dieu. On s'est dit non, on ne peut pas rater ça.
C'est une obligation d'y aller.
Bah oui, il y a 600 000 visiteurs, je dis non. Et puis mer, à Brest, non,
quoi, voilà.
On est obligés. Et puis on a le Vendée Globe aussi, où on sera présent en novembre à Paris, où on sera 2 jours à Paris et au Sable d'Olonne.
Anne Lemasson, directrice de l'Office de tourisme, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir ?
Non, je souhaite une très bonne saison, en tout cas à ceux qui nous écoutent. Et puis surtout, ne pas hésiter à nous faire part de leur ressenti,
des suggestions,
effectivement, idées pour faire évoluer la destination. On est vraiment à l'écoute par rapport à ça.
Marie Printemps Quentin, du service hébergement de l'Office de tourisme, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir ?
Non, je vous dis au revoir à tous et merci de nous avoir écoutés.
Ça sera le mot de la fin, merci beaucoup à vous, à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, mercredi, comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est en compagnie de Martine. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.